Bonjour à tous, j'ai l'art de toucher et de casser les choses, alors je ne touche plus. Voilà, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous voir. Alors le sujet d'aujourd'hui, je vais vous donner le titre, c'est « Comment éprouver les esprits ?» Et on fera après la nuance entre « éprouver » et « discerner les esprits ». Alors, ce sujet-là, c'est un thème que j'avais trouvé dans une petite brochure d'un certain monsieur Touzer, il y a presque 50 ans. Voilà. Et c'était des notions qui ont marqué ma vie. Elles sont extrêmement simples, mais tellement efficaces. Et ça faisait très, très longtemps que j'avais envie de partager ce sujet, sans que, je dirais, la porte s'ouvre. Et aujourd'hui, je me suis dit, ça y est, c'est le temps. C'est le temps parce que je crois que l'Église a besoin d'apprendre à éprouver et à examiner tout ce qu'il entend, tout ce qu'elle entend. À l'époque, on avait les prédicateurs, on avait l'Écriture, quelques livres. Après, il y a eu beaucoup de livres et après, il y a eu Internet. Et aujourd'hui, on veut vivre plein de choses. C'est très bien. Alors, on va sur Internet, on entend plein de choses. Et puis, le pasteur de l'église, il se dit, il ne peut pas être derrière chacun pour vérifier, pour contrôler, pour protéger. Je crois que c'est vraiment la pensée de protéger, hein, dans un troupeau, il y a le berger, puis il y a des chiens qui sont là et qui ont pour rôle de, à la fois de protéger le troupeau, mais d'empêcher que le loup arrive. Donc je crois que c'est important que chacun puisse être outillé, équipé, pour faire lui-même à domicile ce travail quand il vit des choses, quand il expérimente des choses religieuses nouvelles. Alors, on n'est pas contre l'expérimentation de choses nouvelles, mais voilà, l'Écriture nous dit, Paul nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, on a un ordre d'examiner ce qu'on entend. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça a toujours existé, ça existe encore aujourd'hui et ça existera encore. Et Paul nous donne une information, il nous dit, le critère pour les éprouver, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, éprouver les esprits participe à goûter aux fruits. Discerner les esprits participe davantage à la source, à l'origine. On verra la différence après et je vous l'expliquerai en donnant des témoignages concrets. Parce que c'est un sujet flou. Alors, le but ici est de donner 7 points qui permettent à chacun d'entrer dans cette attitude qui est juste, qui est celle de dire « j'entends, je vis quelque chose de fort, est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que ça vient d'ailleurs ?» Alors, cet ailleurs, ça peut être quoi ? On pense que c'est Satan et son monde, et effectivement, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir venir nous injecter quelques vaccins anti-chrétiens, enfin, voilà, on va voir tout ça. Mais enfin, il ne faut pas lui mettre tout sur le dos, parce qu'il y a nous. Et nous, on est très forts parfois pour semer du désordre et pour nous ouvrir au désordre. Il y a l'ennemi, mais il y a la chair, il y a moi. Et je dois aussi assumer ma responsabilité. Je ne peux pas toujours tout mettre sur l'autre. On a bien envie, Mais il faut être honnête avec soi-même et être vrai. Alors, on peut faire des tests et se dire cette nouvelle doctrine, cette nouvelle habitude religieuse, ce nouvel aperçu de la vérité, cette nouvelle expérience spirituelle, de quelle manière ont-ils modifié mon attitude et ma relation d'abord envers Dieu, envers Christ, les Saintes Écritures, moi-même, les autres chrétiens, le monde et le péché. Il y a 7. Ça ne va pas être trop compliqué, vous verrez. C'est quelque chose, si moi j'ai pu au début de ma vie chrétienne comprendre tout ça, c'est que tout le monde peut comprendre. Qu'est-ce que ça modifie quand je vis quelque chose, une expérience spirituelle, ou que je lis des choses, des livres, dans ma relation avec Dieu? Est-ce que ce que je lis pousse mon cœur à me tourner davantage vers Dieu? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Tout ce que je peux vivre spirituellement qui me pousse vers Dieu peut me faire penser que l'origine, que le fruit auquel je goûte vient de Dieu. Alors moi, je voudrais apporter 2 choses, 2 nuances. Je crois que si on part au départ avec quelqu'un qui est athée et qui ne croit pas en Dieu, en aucun Dieu, et aujourd'hui il y en a beaucoup, hein, puisqu'il y en a qui se revendiquent, on parle de plein de religions, mais alors, et les athées, on les oublie toujours, que j'ai entendu l'autre jour. Je pense que si quelqu'un vit quelque chose qui peut tout d'un coup le faire basculer de « il n'y a pas de Dieu, Dieu n'existe pas » à « oh, et si il y avait un Dieu ?» Hein, beaucoup de scientifiques, chercheurs ont dit « il n'y a pas de Dieu ». Puis plus ils cherchent et ils sont admiratifs du corps humain, par exemple, « et si Dieu existait ?» Alors, je me dis, c'est déjà un pas. Mais de quel Dieu parlons-nous ? Je crois que c'est là qu'il y a la phase 2. Et je voudrais qu'on puisse lire Actes 17, 23 à 31. Parce que je trouve que ça résume très bien tout ce que je pense. Acte 17, 23 à 31. C'est ça. C'est Paul qui parcourt Athènes et qui dit « Car en passant, j'ai observé tout ce qui est l'objet de votre culte. Et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » Et je crois effectivement que beaucoup de gens passent du stade d'être athée à cet autel, à un Dieu inconnu, en tout cas un Dieu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits par la main des hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et toute chose. Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre. Il a déterminé les temps fixés pour eux et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée. par l'art et l'imagination des hommes, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Paul a dit tout ce qui était nécessaire. Si l'expérience religieuse que nous faisons nous pousse à découvrir l'existence de Dieu, mais qui plus est n'est pas un Dieu inconnu, mais le Père de Jésus-Christ, alors j'ai la sécurité que ce que je vis procède certainement de Dieu lui-même. Le deuxième point, c'est l'attitude envers le Seigneur Jésus. En quoi est-ce que cette expérience modifie-t-elle mon attitude envers Jésus? Alors, quelle que soit la place que la religion actuelle puisse accorder au Christ, Dieu lui donne la place suprême sur la terre et dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, dit la voix de Dieu venant du ciel. Jésus-Christ est souvent la clé de la compréhension de l'expérience religieuse que je peux faire. Parce que bien souvent, on le diminue, on le modifie, on le transforme, on l'oublie, toute son œuvre est comme transformée, falsifiée, parce que c'est tellement difficile pour les nations de croire que Christ est Dieu. Donc, par tous les moyens, on cherchera à l'enlever, à modifier la connaissance que l'on peut avoir de lui, et puis aussi à l'enlever du centre. J'aimerais qu'on lise Hébreux 1, 2 et 3. Je vais regarder là, ce sera plus simple. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Christ est le créateur du monde. Dieu le Christ. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Je crois que c'est important de s'interpeller et d'examiner si ce que j'entends et je lis enlève Christ à la fois de ce centre et modifie en fait à la fois sa nature, tant divine que humaine. On peut lire dans 1 Jean 2, 22 et 23. Alors, je ne sais pas si je l'ai marqué sur la liste. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Christ, c'est Seigneur. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Je crois que là, c'est assez clair. Et puis, alors, l'autre verset, c'est 1 Jean 4, 2, verset 3. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est clair. Donc, vous avez là un outil qui nous permet de trouver le chemin de ce qui est bon et juste. Et vous savez, c'est important parce qu'aujourd'hui, ces réalités-là, ces vérités, sont battues en brèche. Les gens qui pratiquent l'occultisme à un haut niveau ne peuvent pas confesser ces choses. C'est intéressant. Je vais pas plus loin dans le sujet. La troisième, c'est l'attitude à l'égard de la parole de Dieu. Est-ce que cette nouvelle expérience religieuse, cette nouvelle optique de la vérité, jaillissent-elles de la parole de Dieu elle-même ou sont-elles le résultat de quelques stimulants étrangers à la Bible? Il est important de venir à la source pour vérifier si ce que je vis est dans les Écritures. C'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre la parole de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a dit « l'Écriture est expliquée par l'Écriture ». Donc, même si je ne comprends pas tout de suite, je peux chercher dans la parole une directive, une compréhension. Et si je n'arrive pas à la trouver toute seule, je peux aller demander à des personnes matures qui ont une meilleure connaissance que moi ce qu'il en est. La parole de Dieu fait autorité avant les expériences. Ou en tout cas, mes expériences doivent être éprouvées à la lumière de la parole de Dieu. Je dis ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, tout un mouvement est là pour dire le contraire. La parole de Dieu, tout l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est que la loi. Et si on la lit, on se met sous la loi. Donc le Seigneur nous a dit, pas de loi, donc on vit une expérience. C'est ça l'essentiel. J'en parlerai un petit peu après. C'est pour ça que, voilà, je vous dis, à l'heure actuelle, c'est vraiment des choses importantes. Est-ce que ce que je vis me donne une envie plus grande de découvrir la parole de Dieu, de connaître Dieu dans sa parole? Le christianisme, ça n'est pas la religion du livre. C'est dur ce que je dis là. C'est la parole. Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Et il parle. Et il a parlé au travers des siècles. Il a parlé aux hommes, génération après génération. Il a parlé au travers du peuple d'Israël pour parler au travers de Jésus-Christ et se révéler à nous. Nous sommes la religion de la parole, et pas du livre. C'est vrai que c'est pas le livre qu'il faut adorer. Il faut connaître le contenu parce qu'en apprenant le contenu, nous apprenons à connaître qui est le Dieu trinitaire. Alors, on peut vivre beaucoup d'émotions, mais je pense que, voilà, si je ressens que ce que je suis en train de vivre me pousse à découvrir plus de la parole de Dieu, alors je me dis, tiens, peut-être que je suis sur une bonne voie, une voie qui me pousse à quelque chose de sain et saïenne. Hein? Alors, 6 à 7, où j'en suis? La parole de Dieu, 4, oui. Est-ce que ce que je vis, quels sont les effets sur ma nature égocentrique? Ah! Je suis un être égocentrique. Quand j'étais toute jeune, on avait un tout petit feuillet qui annonçait la conversion et qui montrait un trône. Et sur ce trône, il y avait moi. Et comment on expliquait la conversion, la nouvelle naissance, c'était déplacer le moi et mettre Jésus à la place. Alors moi, j'aime bien dire que le moi, il existe toujours. Pas le moi égoïste, charnel. Jésus, il dit toujours « je suis ». Et Dieu s'est présenté comme « Je suis celui qui est ». Dieu nous a donné un corps, une âme, un esprit, une personnalité, des talents, des dons. Il a voulu ce que nous sommes. Donc, ce que je suis doit être mis en valeur. Mais est-ce que ce « je suis » est sur le trône et c'est moi que je décide ? Ça, c'est autre chose. Est-ce que Christ est Seigneur de ma vie ? C'est là la vraie question. Donc, est-ce que l'expérience que je suis en train de vivre me pousse à reprendre le trône ? Ou est-ce que cela me pousse à dire, comme Jésus au jardin de Gethsémané, non pas ma volonté, mais la tienne ? Alors, je peux me dire que peut-être je suis sur une bonne voie. Les relations avec nos frères et avec l'Église. Ah, ça, c'est toujours un sujet difficile. Parce que, est-ce que ce que je vis change mon attitude envers mes frères et sœurs et envers l'Église ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque croit que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Est-ce que mon expérience religieuse me pousse à aimer davantage mes frères et sœurs et à aimer l'Église, là où on vit ensemble ? À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois que le message est clair. Néanmoins, je voudrais faire un aparté. À l'image de Jésus-Christ, Jésus-Christ a aimé chaque être humain. Mais ça ne veut pas dire qu'il aimait ce que les gens faisaient. Aimer quelqu'un ne veut pas dire accepter tout ce qui est fait ou dit. Hein? Je crois que quand on voit Jésus a aimé profondément les pharisiens, puisqu'il est mort pour eux. Mais il a su leur dire, là, je ne suis pas d'accord. Donc je pense que, voilà, c'est important de ne pas mettre... L'amour comme mai 68. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Hein? Je crois que Dieu aussi, là, nous demande d'être sérieux avec ces choses. Je crois que l'amour de Christ pour les autres, pour la personne, est important. Ça ne veut pas dire que j'aime ce qui est fait ou dit toujours. Hein, je voudrais bien nuancer les choses. Le sixième point, c'est l'attitude envers le monde. Alors là, ça c'est un sujet. Mais là aussi, c'est trouble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et d'un autre côté... Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. D'un côté, Dieu a aimé le monde, mais ce qui est dans le monde, Dieu ne l'aime pas. Parce que c'est vrai que le monde est dominé par Satan et aussi par la nature charnelle, égocentrique de l'homme. De l'être humain, je vais dire. Soyons précis dans les termes. Donc, est-ce que l'expérience religieuse que je fais me pousse à reprendre de la place dans ce qu'on appelle le monde aujourd'hui, ce chemin où large et vaste qui mène à la perdition, ou est-ce que cette expérience me pousse à prendre le chemin étroit? On va lire dans Jean 17, 14 à 16. Je vais essayer de le trouver, je l'ai là sous les yeux. Je leur ai donné, c'est Jésus dans la prière sacerdotale, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, la parole et la vérité. Voilà, je crois que Jésus lui-même fait la différence entre le monde dans lequel nous vivons et nous sommes, qui est gouverné par l'ennemi et par la nature égoïste. Et Dieu nous demande à la fois d'aimer ce monde, au sens il est important de leur annoncer l'évangile pour qu'ils puissent être sauvés. Mais Jésus nous dit bien, tout comme lui, si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et je crois que là aussi, est-ce que l'expérience que je vis, dans quelle direction est-ce qu'elle m'entraîne, hein? Ça ne veut pas dire que ne pas aimer le monde, c'est plus aller au cinéma, c'est plus faire plein de choses. Dieu nous demande de chercher ce qui est bon, agréable et parfait. Et il y a des choses bonnes dans le monde, ne serait-ce tout ce que Dieu a créé. Mais voilà, à qui nous appartenons véritablement? Et parfois, nous serions tentés de retourner à ces choses. Et le Seigneur nous dit ce que tu es en train de vivre spirituellement, où est-ce que ça t'emmène? Alors, nous étions à la sixième partie, et la septième, c'est l'attitude envers le péché. Dans Tite, il est dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. » Donc là encore, est-ce que l'expérience religieuse que je suis en train de vivre, quel est le fruit qu'elle porte vis-à-vis du péché? Est-ce que cela m'entraîne à retourner dans des choses que j'avais abandonnées? Ou est-ce que cela me protège ou m'incite à me dire « Attention, danger, tu vas sur un chemin qui peut être mauvais, ou en tout cas, qui ne serait pas bon. » Sachant que tout ce qui rend la sainteté plus attrayante et le péché plus intolérable peut être considéré comme authentique. Et j'aime bien redire cette parole de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. On n'est pas là pour dire, on ne doit pas, il ne faut pas, on ne peut pas, hein, comme on a bien parfois voulu nous le présenter. Je crois que plus on découvre et on connaît le Christ, plus on goûte à sa sainteté, plus on est là où on doit être. C'est-à-dire valorisé par Jésus, mais à la place, je ne sais pas comment dire, le fruit de la sainteté, c'est quelque chose que je souhaite à tous de vivre, parce que c'est la chose la plus extraordinaire. Toucher du doigt la sainteté de Dieu produit un fruit éternel et règle beaucoup de choses. et met de l'ordre et met en place au fond de moi une attitude vraie et juste de qui je suis, sans condescendance, sans maltraitance de moi, mais juste moi là où je suis et où Dieu me veut, parce qu'il m'aime comme je suis. Voilà, c'était à peu près 7 points. J'espère que ça vous a donné en tout cas des indications. Et puis je voulais faire la nuance, parce que quand on parle d'éprouver les esprits, on confond avec discerner les esprits. Alors éprouver les esprits, c'est goûter à leurs fruits. Hein? Si ça vient du Saint-Esprit, je goûterai certains fruits. Mais si ça vient d'autre chose, je goûterai d'autres fruits. C'est ce qu'on vient de voir. Discerner les esprits a trait plutôt à ce qui est à l'origine, à la source. Alors, le discernement, c'est un des 9 dons du Saint-Esprit, don surnaturel que Dieu donne après le baptême du Saint-Esprit à des personnes qui ponctuellement en ont besoin. Les dons du Saint-Esprit sont là pour l'édification de communautaire. Hein? Donc, c'est un don qu'on évoque très peu parce qu'on n'ose pas parler de ces choses. Et pourtant, elles sont bien réelles. Discerner les esprits, c'est, j'aimerais dire que ça n'est pas voir les esprits. Je le précise parce qu'on a rencontré des gens qui voyaient les démons. Il existe un monde spirituel invisible que nos yeux naturels ne voient pas, dans lequel il y a l'ennemi et il y a Dieu et les anges. Et notre esprit, notre corps spirituel n'est appelé qu'à être revivifié à la nouvelle naissance, reprend vie quand je nais de nouveau. On passe de la mort à la vie. Hein? La mort dans la pensée de Dieu, c'est être séparé de Dieu. Avec le péché qui a été introduit dans l'humanité, nous sommes tous séparés de Dieu, pécheurs. Donc notre corps spirituel est séparé de Dieu. À la nouvelle naissance, quand on se repent et qu'on se réconcilie avec Dieu, la vie nouvelle par le Saint-Esprit revient donner vie à notre corps spirituel. Et nous pouvons entrer en relation avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui a été imagé dans le temple au moment où Christ est mort. Le rideau dans le temple, ce fameux rideau, s'est déchiré, non pas au ciseau comme ça, mais du haut en bas par la puissance de Dieu. La vie nouvelle qui nous redonne vie et accès au Père, c'est la même chose. Mais Dieu nous dit expressément qu'il n'y a pas d'autre alternative pour notre corps spirituel que d'être en relation avec lui. Toute relation avec d'autres du monde spirituel nous est interdite. Non pas parce que c'est une loi, mais parce que c'est dangereux. Et que Dieu ne veut pas que nous soyons en relation spirituelle avec des esprits du monde de Satan. Alors, le discernement des esprits, ça n'est pas voir dans ce monde spirituel. C'est le Saint-Esprit avec mon esprit qui tout d'un coup prend conscience qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, je ne vais pas entrer dans plus de détails, je vais vous donner 3 témoignages qui vont vous expliciter un petit peu. Il y a des gens spécialistes de tout ça qui ont écrit des livres très intéressants qui informent vraiment sur ces choses-là, des livres équilibrés qui sont des aides pour quiconque souhaite être davantage informé de tout cela. Je vais vous donner 3 témoignages personnels. Le premier, c'était j'ai une longue route de guérison intérieure et de délivrance. Et la première fois que j'ai été confrontée à ces choses, c'était après 3 ans de souffrance intérieure terrible. J'étais dans une impasse terrible. Et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu parce que je ne savais plus ce que je devais faire. Je souffrais de trop. C'était incontrôlable, c'était difficile. Je devais pleurer, je pleurais beaucoup. Et là, j'ai crié à Dieu. Et j'ai fait un songe. Tout d'un coup, j'étais assise. Je me souviens très bien où et quand. Et j'ai fait un songe. Et j'ai vu l'intérieur d'une maison très lumineuse, un peu avec des couleurs chaudes à la provençale. Enfin, c'était l'été, c'était beau. Je descendais des escaliers et je vois sur ma gauche un arc, comme ça, une voûte, et je vois le salon. Et à l'intérieur de ce joli salon, voilà qu'il y avait deux femmes, bien vêtues, en tenue d'été, et une avec un chapeau qui était comme ça, et qui disait « Ah, mais tu te rends compte ? On nous demande de partir, mais ça fait si longtemps qu'on est là. Mais pourquoi on doit partir ?» Et là, derrière moi, dans les escaliers, une voix, parce que le propriétaire vous l'ordonne. Et je me réveille. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, j'ai fait la mise en pratique de ma petite leçon. Il me semble que Dieu est propriétaire de ma vie. Il me semble qu'il a autorité. Il me semble que ces choses, visiblement, doivent partir. Que Dieu chasse des choses de nos vies, parfois. Alors, j'ai dit, Seigneur, voilà, j'ai le sentiment que c'est de toi, au bout de mes réflexions, avec ma raison. J'ai dit, Seigneur, je reçois ce que tu me donnes de vivre. J'accueille. Et là, je m'écroule en larmes et je pleure. Mais c'était bizarre. C'était pas ma voix. C'était une autre voix. Et là, j'ai compris. J'ai compris qui étaient ces esprits. Et j'ai compris aussi le mensonge de l'ennemi. L'esprit de pleurs qui était en moi était quelqu'un qui batifolait allègrement dans la réalité. Le père du mensonge. J'ai dit, Seigneur, ok, qu'est-ce que je fais? J'ai pris autorité, il ne s'est rien passé de plus, j'ai arrêté de pleurer, j'ai repris ma vie. Ça a été un combat qui a duré une semaine de tension à l'intérieur, mais terrible. Au bout d'une semaine, je me souviens, on rentrait en voiture près de Clermont-Ferrand, c'est vous dire, hein, c'était vraiment précis. Et je dis, mais Seigneur, je ne tiendrai jamais la route, ça m'épuise de trop. Et là, tout d'un coup, pouf! Plus rien. C'était fini. Oh, j'ai dit, bon, ça y est, c'est fini. Une semaine de combat, de résistance. Et l'ennemi a lâché prise, il a dû partir. Le deuxième personnage que j'ai vu dans mon songe, il est parti 3 mois après dans un temps de prière personnel. Je n'ai jamais su son nom, Dieu n'a pas jugé nécessaire que je sache de quoi il en retournait. Voilà, ça c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années, dans le cadre de l'équipe de ce temps-là, plusieurs de l'équipe vont pendant une semaine à un séminaire prophétique, parce qu'on avait besoin d'être renouvelés, et puis c'était entre guillemets la mode à cette époque-là. Et puis, nous, on était heureux que nos frères et sœurs puissent aller là-bas. Et quand ils reviennent, on se voit l'après-midi, mais un malaise, mais une gêne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'était jamais arrivé. Et ça a duré. Et puis, on a fait venir des personnes de cette église et qui ont parlé les uns les autres, et à un moment donné, on entend ce responsable dire, de toute façon, il faudra bien que Jean-Marc plie le genou. Donc, on était au bout de la table, on entend ça. Bon. Et ça, il y avait de la peur qui s'était installée dans nos relations. On s'est dit, mais c'est bizarre cette histoire. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'entende qu'est-ce qui a été enseigné, qu'est-ce qui a pu être dit pour ne pas rester que sur des choses expérimentales. Mais là encore, il fallait éprouver, chercher, comprendre. Donc, j'ai pris les cassettes ou DVD, je ne sais plus à l'époque ce que c'était. Et puis j'ai écouté toute la semaine, 5 jours d'enseignement par ce prophète. Ça semblait des paroles justes, mais il y avait quelque chose, je ne pouvais pas dire quoi, mais qui enrobait ces choses qui ne paraissaient pas justes. Et le 6e jour, le samedi matin, cette personne donnait son témoignage personnel. Et là, c'était lui. Les 5 jours avant, ce n'était pas lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... Il y avait un envoûtement de la personne qui avait fait que ça n'était pas sa personnalité à lui qui il était. Il transmettait les paroles, mais il était sous domination, sous, moi j'ai appelé ça envoûtement. Oh là là, moi c'était la première fois que je vivais ça. Ça fait quelque chose. On se dit, mais est-ce que c'est toi qui dérailles? Enfin, voilà, on est toujours avec plein de doutes et de questions parce que on n'a pas envie de croire ces choses. On n'a pas envie de vivre ça. Et j'ai repris tout ça et quand c'est comme ça que j'aime bien essayer de trouver, de dessiner les choses avec des mots. Je sais pas, je dis, mais il faut que je mette des mots là-dessus. Et petit à petit, les mots sont venus. C'est comme si la prédication était du royaume aujourd'hui et maintenant. Eh bien, voilà, dans la grâce de Dieu, Dieu a confirmé après par un des apôtres de l'Église qui habite en région parisienne, a confirmé ces choses de différentes façons. Au niveau de l'équipe, on a vécu vraiment quelque chose de très fort entre nous qui nous a soudés, qui nous a fait découvrir. Enfin, c'est un vrai cas d'école, je vais pas entrer dans les détails. Et donc, la chose a pu, au bout de 2 ans et demi, être réglée. Il a fallu 2 ans et demi pour arriver à régler tout ça. Et quelques mois après, je reçois un téléphone un matin de ce monsieur, de ce pasteur, qui revient avec les mêmes arguments. Et 3 jours avant, le Seigneur m'avait redonné toute la liste. J'avais dit, mais Seigneur, tout ça c'est fini, on a tourné la page, pourquoi tu m'en reparles? Je ne comprenais pas, mais quand j'ai eu au téléphone ce monsieur, je me suis dit, ah, je commence à comprendre. Donc le Seigneur m'avait préparé. J'ai pu redire, enfin argumenter et tout. Et les derniers mots de cette personne ont été, de toute façon, il faudra que Jean-Marc plie le genou. Alors, quelle était cette doctrine? C'est une doctrine qu'on entend et que vous entendrez peut-être maintenant beaucoup parler parce qu'elle s'infiltre dans le monde évangélique francophone avec beaucoup, beaucoup de... Voilà, c'est une vraie toile d'araignée. C'est le dominionnisme. C'est un mot savant, mais si vous cherchez sur Internet, il y a d'excellents articles qui en parlent. Qui est une fausse doctrine qui est enseignée principalement par cette église de Bethel Church aux États-Unis. Et donc qui s'infiltre aussi au travers de la méthode de relation d'aide Sozo, dont on a évoqué récemment. Et donc il y a cet esprit de fausse doctrine, d'envoûtement qui vous prive de votre personnalité. Et aussi un puissant esprit de contrôle, puisque l'intention qui est là derrière, alors je dis souvent c'est un vieux serpent de mer, mais qui a toujours existé. On va le lire dans Matthieu, j'ai dû marquer Matthieu 7, je crois, ou Matthieu 4. Est-ce que j'ai marqué ça? Matthieu 4, 8 à 10. C'est des choses importantes parce que c'est de l'actualité pour le monde chrétien évangélique, et pas seulement évangélique. C'est la tentation de Jésus au désert. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » La convoitise de prendre le contrôle des nations a toujours existé. Ça s'appelle une théocratie, comme on en trouve aujourd'hui dans certains pays. Ça s'appelle le contrôle par des dictateurs, par des idéologies. Tout ce qui contribue à vouloir prendre le contrôle, envoûter des personnes, les priver de leur personnalité et de leur libre arbitre, et d'obliger les gens à plier le genou. Ça a toujours existé, ça existera toujours, et le monde évangélique aujourd'hui est malheureusement truffé de ces choses-là. Donc, à vous de, si vous écoutez, si vous lisez, d'être vigilant, d'éprouver ce que vous lisez, hein, d'éprouver ce que vous vivez, c'est important. Le troisième exemple, puis je m'arrêterai rapidement après, c'était il y a déjà pas mal d'années en arrière, une dame avait vécu sa foi dans l'église pendant quelques mois, personne en situation familiale, personnelle, lourde, difficile, vraiment, voilà, c'était, on avait beaucoup de peine pour cette personne, on l'a accompagnée socialement. Et puis au bout de quelques mois, cette personne a dit, voilà, ben maintenant je suis là depuis quelques mois, j'aimerais servir le Seigneur. Bon, ben écoutez, c'est très bien, on va prendre rendez-vous et puis on va discuter les deux de tout ça. Donc on s'est retrouvés toutes les deux là à côté dans la petite salle et puis on a parlé, qu'est-ce que tu aimerais faire, quelles sont les choses où tu te sens à l'aise. Et elle émettait l'idée de chanter. Je lui dis, bah, c'est bien, on a besoin de chanteurs toujours. Donc comment on fait? Elle dit, mais ce qu'il y a, c'est que quand moi je chante contre le mur. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai pas relevé, on a continué à bavarder, puis... Cette femme avait dit que son père avait été pasteur, sauf erreur, je crois qu'il était décédé. Mais avant d'être pasteur, il était sorcier. Et là, pendant qu'elle parlait, à un moment donné, on a été trois dans la pièce. Non pas trois physiquement, mais en esprit. Le Saint-Esprit confrontait l'esprit qui malheureusement habitait, l'esprit de son grand-père, de son père qui habitait cette femme. Et elle a su que je savais, et j'ai su qu'elle savait que je savais. Et on a pratiquement terminé la rencontre au bout de 5 minutes, et on ne l'a plus jamais revue. Et je crois que cette femme était victime vraiment, ma foi, de la gravité de ce qu'on peut vivre génération après génération quand on touche à la sorcellerie de ce niveau-là. Mais voilà, ça a été... C'est pas des choses qu'on cherche. Elles arrivent. Quand l'Esprit Saint est là, il n'y a pas besoin d'en faire une obsession ou de... de gratter comme une taupe. Je crois que quand le Saint-Esprit est là, les choses se manifestent. Et Dieu nous a toujours... garder, protéger. Et je suis infiniment reconnaissante de, à la fois dans ma vie personnelle, parce que j'ai un long chemin dans ce domaine, mais aussi pour l'Église, comment Dieu a, voilà, être sentinelle dans l'Église, et peut-être être équipé de ce don. C'est pas facile. Mais c'est un don précieux qu'on peut demander à Dieu, utile dans la relation d'aide. Hein, je pourrais vous expliquer, parler d'autres choses, mais ce n'est pas le temps. Voilà, en fait, c'était ça que je voulais vous laisser, parce que je pense qu'aujourd'hui, savoir ou apprendre, parce que c'est quelque chose qui s'apprend à éprouver les esprits auxquels on est confronté dans le monde chrétien et dans les expériences spirituelles que bien souvent on fait toute seule en écoutant Internet. Ben voilà, il faut être outillé, il faut avoir les bons outils. Et quand on a les bons outils, alors on peut marcher en sécurité. Et puis si on n'arrive pas à comprendre tout seul, il y a toujours des gens autour de nous qui peuvent réfléchir avec nous, partir en quête. On ne sait pas tout. Hein. Nous, quand on a été confronté à cette doctrine, on n'était pas au courant de tout ça. Ça a été un drôle d'apprentissage. Hein. Mais Dieu était là avec nous et il nous a conduits pour que l'Église soit gardée et protégée. Et voilà, aujourd'hui, vraiment, il faut être vigilant. Il y a vraiment des choses sournoises qui s'infiltrent. Et que chacun assume sa responsabilité devant Dieu. On est tous responsables de l'Église et de notre chemin avec Dieu. Amen.